Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Margot, que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de You Make Fashion. Nous nous sommes rencontrés grâce à Hello Body, une marque de cosmétiques à base d'ingrédients d'origine naturelle. Nous avons toutes les deux pris la parole lors d'une masterclass sur le rôle des marques dans la représentation et la célébration de la diversité des femmes. Je suis ravie de voir des marques qui s'engagent vraiment pour améliorer le quotidien des femmes, et c'est ce que fait Hello Body grâce au programme Hello Body Cares, qui s'engage pour le droit des femmes, aux côtés de Solidarité Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, ou encore aux côtés de Pratanade Foundation, qui vient en aide aux femmes défavorisées en Thaïlande, en leur offrant la possibilité de poursuivre des études et de devenir indépendantes. Si vous souhaitez découvrir Hello Body, ils offrent à tous les auditeurs et auditrices d'InPower moins 40% avec le code WOMANPOWER, ainsi qu'une petite surprise en plus dans votre commande. L'invitée de cette semaine est donc Margot, créatrice de contenu, auteure et entrepreneur, et ce depuis un peu plus de 10 ans. Dans cet épisode, Margot nous partage comment tout a commencé, comment elle a trouvé sa voie, comment elle a appris à se faire confiance et à créer le métier de ses rêves. Comment dépasser ses peurs, ses angoisses, ses doutes, comment apprendre à lâcher prise et à se faire confiance, ce sont autant de sujets qu'on aborde dans cet épisode hyper riche avec Margot que j'ai vraiment adoré enregistrer. Vous en ressortirez avec beaucoup de conseils pratiques pour vous aider au quotidien, dans votre vie comme dans votre travail, et surtout, une dose d'inspiration pour croire en vos idées, en vos projets et en vos rêves. Si vous avez déjà écouté InPower, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est ce qui permet de faire vivre le podcast et de continuer à vous partager des épisodes inspirants. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Margot. On est parti. Bonjour Margot.
Bonjour.
Bienvenue sur InPower.
Ben, merci à toi.
Très contente de te recevoir sur le podcast. Parce qu'en plus, pour la petite histoire, je crois que même avant qu'on se rencontre, je m'étais dit, Margot, à mon avis, c'est quelqu'un qui peut être hyper inspirante sur le podcast. Parce que bah, tu as ce côté quand même entrepreneurial que toutes les créatrices de contenu n'ont pas forcément. Et que je trouve très inspirante. Donc ça fait un petit bout de temps que je souhaite te recevoir.
Cool.
Donc c'est chose faite. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites aux personnes qui nous écoutent ?
Alors déjà, bonjour à tous et merci à toi de m'accueillir. Donc moi, c'est Margot. Ça fait dans un mois 10 ans que je fais ça. Puisque ça a commencé sur un blog avec des... quelques réseaux sociaux, et puis se sont ajoutés YouTube, Instagram, Instagram Stories, un autre compte Instagram. C'est vrai qu'en 10 ans, j'ai aujourd'hui deux comptes Instagram. Le premier qui est You Make Fashion, qui donc est le compte historique. Et puis le deuxième, bien dans mon slip, celui-ci, il est beaucoup plus, un peu plus niche. C'est là où je partage mes bonnes adresses, ce que je mange tous les jours, mes séances de sport. Alors que l'autre, You Make Fashion, vraiment, c'est mon lifestyle, mes voyages, beauté, mode... Voilà, c'est vraiment lifestyle, ça porte bien son nom. J'ai toujours mon blog depuis 10 ans, une chaîne YouTube parce qu'il y a des sujets voilà, qui méritent, je trouve, une vidéo où ce serait peut-être trop long à expliquer dans un article. Ouais. Ou alors pour les vlogs voyage, c'est parfait, je trouve, parce qu'on invite vraiment les gens à voyager. Et puis, j'ai créé ma marque aussi d'encas sains et bio il y a un peu plus d'un an. Et j'écris des livres, donc je crois que j'en ai écrit 8. Donc les 5 premiers, c'était vraiment du do-it-yourself, parce que je pense que j'ai vraiment été connue au tout début pour le do-it-yourself, donc faire soi-même ses bijoux, customiser ses vêtements. Et puis après, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je suis happy » sur la sophrologie, où je réponds aux peurs et aux angoisses de mes lectrices avec ma maman qui est sophrologue. Et puis, comme j'ai lancé Bien dans mon slip, qui est un compte autour du rééquilibrage alimentaire, j'ai écrit un premier livre qui est un guide du rééquilibrage alimentaire qui s'appelle Je suis Elsie, et depuis un livre recette qui s'appelle les recettes Elsie de Margot, tout simplement. Donc voilà, c'est une belle présentation.
Ouais, c'est une belle présentation, et puis on partage, je pense, le même problème de se présenter en une phrase.
C'est ça.
Un peu impossible.
Je commence par où et je dis quoi et je ne dis pas quoi.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que là, c'est cool. Encore une fois, le format podcast, le but c'est d'aller au fond des choses, donc on a une belle presse. Moi, je me demande, vu que je te connais de Margot You Make Fashion, qui est et qui était Margot avant You Make Fashion, quelle a été, tu vois, ton enfance, quels étaient tes rêves en grandissant, et quelle voie t'as pris avant de te consacrer aux réseaux sociaux.
C'est une bonne question, qui j'étais avant, parce que qui je suis, j'ai eu peur que tu me poses la question, qui es-tu réellement, et je pense que là, j'ai rien à dire, parce que je suis très, très, très authentique sur mes réseaux, donc évidemment, il y a des choses que je garde privées, mais c'est pas de l'ordre de jouer un rôle ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que sur 10 ans, Vous savez tout. Par contre, avant ça, donc moi, je suis née, elle naquit il y a 31 ans. Je suis née à Biarritz. Donc moi, je suis basque. J'ai passé les 20 premières années de ma vie au Pays Basque. Donc voilà, une enfance et une adolescence plutôt cool, au bord de la mer. Au lycée, j'étais déjà un petit peu super active, donc j'avais plein d'options, des options extrascolaires, j'ai passé le bac avec plein d'options en plus à côté et tout, donc j'ai toujours aimé avoir plein de cordes à mon arc. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi dès toute petite, c'était d'avoir toutes les chances de mon côté, et puisque ça m'intéresse, vas-y, donc fais du théâtre, du dessin, j'avais fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, je pense que toute petite, je voulais être... alors j'appelais ça... être rédactrice de L. Donc c'est-à-dire que je croyais, c'est mignon, je croyais que quand on dirigeait un magazine, on faisait tout dans le magazine. Je pensais qu'on était styliste et graphiste et photographe et rédactrice et qu'on dessinait des vêtements. Et je me disais, c'est génial. Ouais. Donc je voulais faire ça. Et puis, je sais pas quand est-ce que j'ai compris qu'en fait, tu faisais rien de tout ça, mais que tu chapeautais tout le monde. Et je me suis dit, bon, en fait, il va falloir choisir. Et quelle déception. Ça a été très dur, ça, au collège, de me dire, il faut choisir. Donc, à un moment, au lycée, j'ai décidé d'être graphiste. Et donc, j'avais deux choix, le BTS classique ou les Beaux-Arts. Et je pensais que Beaux-Arts, il fallait dessiner et peindre à merveille. Et puis, quelqu'un d'incroyable m'a dit un jour, mais tente, peut-être que ta curiosité, ta créativité peut les intéresser. Donc j'ai passé l'examen, je venais d'avoir 17 ans, et je l'ai eu. Donc ça m'a donné la force de passer le bac, parce que j'en avais vraiment marre du lycée, mais je me suis dit, allez, il faut avoir ce bac pour partir aux Beaux-Arts. Et je suis partie aux Beaux-Arts et j'ai appris tellement de choses, parce que déjà la première année, le tronc commun est incroyable, il y a de la culture G, il y a vraiment du dessin, de la peinture, du graphisme, on apprend tellement de choses en montage, en retouche, en... Vraiment, je sais développer des photos. Enfin, c'est vraiment fou. Et puis, en sortant des Beaux-Arts, je pouvais être graphiste. Mais j'avais pas eu de stage, donc je me suis dit, je vais partir un an vivre à Londres, apprendre à parler anglais. J'étais restée au Pays Basque jusqu'à mes 20 ans, parce que j'ai fait les Beaux-Arts de Pau. Donc, je suis restée vraiment pas très loin de la maison. Je suis partie à Londres. C'était génial, incroyable. Là, vraiment, ça m'a aussi beaucoup aidé à me trouver. Et puis, je suis partie à Paris par amour, il y a 10 ans. Et j'ai fait plein de stages qui m'ont amené à, on va dire, créer plein de choses, dans le sens où j'ai créé des contacts, des rencontres, tout ça. Mais j'ai surtout créé mon blog en arrivant à Paris. Et puis, très vite, c'est devenu mon métier à plein temps en 2013, je crois. Mm-hmm. Donc, voilà.
Ok, ouais, je vois du coup le fil un peu conducteur de ton parcours.
Et quelque chose que j'ai pas dit, qui est, je trouve, important, parce que c'est vraiment quelque chose, si un jour j'ai des enfants, que je pousserai, c'est que, pour moi, il y a eu trois Margot. Il y a eu celle de 0 à 10 ans qui se construit, qui avec ses valeurs familiales, etc. 10 ans, j'ai découvert le théâtre, et j'en ai fait pendant plus de 7 ans, et ça, vraiment, je pense que ça a complètement... ça m'a aidé à développer ma personnalité, tu vois. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à parler en public, etc. Et j'en parle souvent parce que je me dis, aujourd'hui, si je suis à l'aise en vidéo, à l'oral, je suis sûre que ça m'a aidé. Et du coup, ensuite, j'ai développé tout ça dans mon métier. Et aujourd'hui, je suis surtout... vraiment différentes phases. Mais surtout, aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis finalement devenue rédactrice du L, quoi. Je fais tout ça, donc c'est cool. Et parfois, on me dit, qu'est-ce que tu... aurait fait si, qu'est-ce que tu ferais si ça s'arrête? Mais je veux pas du tout penser à ça, je fais le métier de mes rêves. Ouais. Vraiment, la petite Margot de 8 ans, elle voulait faire ça.
Ouais.
Tout ça.
Trop cool, j'adore. Et elle s'est donné les moyens.
Ouais.
Et quand tu dis que t'es partie à Londres et que ça a permis un peu de te trouver, est-ce que t'avais l'impression que tu avais besoin justement de te trouver? Qu'est-ce qui manquait, on va dire, pour que tu sois vraiment 100% bien dans ta peau, bien dans ta tête?
Ouais.
Enfin, tu vois. Qu'est-ce que tu cherchais, en fait, et qu'est-ce que tu as trouvé?
Alors, je pense que je cherchais rien, dans le sens où j'avais pas compris sur le moment que je cherchais quelque chose. Je croyais y aller pour vivre la vie d'expat. C'est un grand mot, hein. Je suis partie un an, mais en tout cas, vivre dans un autre pays, plus loin de chez moi. Donc, je cherchais aussi à savoir comment j'allais vivre toute seule, parce que je vivais en couple pendant mes études, donc j'étais pas du tout toute seule. Et c'est vrai que j'ai eu le bac à 17, j'étais diplômée à 20 ans, donc c'est arrivé tout ça très vite. Donc, je me suis dit, bon, tente d'aller vivre toute seule. Tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas vivre ailleurs. Enfin, vraiment, j'avais bercée par des films et des séries, j'avais vraiment envie de faire ça. J'aurais aimé faire Erasmus aux Beaux-Arts, mais ça ne se faisait pas à l'époque. Donc du coup, je me suis dit, voilà, crée-toi cette opportunité que tu aurais voulu vivre en tant qu'étudiante. Et au final, je suis tombée dans une ville qui est quand même incroyable pour s'habiller comme on veut, pour vraiment penser ce qu'on veut. J'avais la moitié de la tête rasée, je m'habillais comme je voulais, c'était vraiment fou. Et en plus, j'avais la chance de juste travailler dans un café pour juste avoir ce qu'il me fallait pour payer mon loyer, mais j'avais aucune responsabilité, donc je sortais, j'ai tellement... Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je vis à Paris, et je connais encore mieux Londres que Paris.
Ah ouais.
Tellement, je voulais tout voir, j'étais vraiment gourmande là-bas, ouais, vraiment, vraiment.
Ouais, ouais.
Et au final, j'ai appris à vivre toute seule, aller vers les autres, dans une autre langue, et c'est une fois là-bas que je me suis dit, waouh, je suis vraiment en train de me découvrir, et il a fallu que je sois là-bas pour le comprendre, quoi.
Ouais, mais t'as raison, je pense que la curiosité intellectuelle dont on peut faire preuve fait vraiment la différence.
Ah, complètement.
Parce que si on n'a pas cette démarche un peu proactive, on peut passer à côté de beaucoup de choses.
Je suis arrivée en même temps que certains amis. Ouais. On n'a pas du tout... Alors déjà, il y en a plein qui sont rentrés. Mais on n'a pas du tout vécu la même chose si... Alors évidemment, je sortais des Beaux-Arts, donc je faisais une tonne d'expos, je prenais des photos partout. C'est comme ça que le blog est d'ailleurs sorti. C'est qu'il fallait bien que je fasse quelque chose de toutes ces photos.
Ouais.
Mais c'est sûr que si on n'a pas cette curiosité... Moi, je prenais que le bus. Comme ça, je passais devant des trucs où je notais, je revenais dès que j'avais du temps, etc. Oui, il faut, surtout quand on sait qu'il y a une date butoir, et j'adore avoir pour tout des dates butoirs parce que justement ça te donne le coup de pied aux fesses pour
ouais.
Et d'ailleurs, depuis que je vis à Paris et que je sais pas quand est-ce que je partirai,
ouais.
J'ai jamais entre guillemets aussi fait peu de choses en tant que habitante à Paris. Je fais assez peu d'expos, faut vraiment que ce soit des artistes que j'adore où je me mets vraiment en tout doux et je loupe pas, mais
ouais.
C'est super d'avoir une date butoir pour
ouais,
ça, c'est que j'avais un an. Et là, j'ai aucun regret sur ce voyage.
Ouais, you make the most out of it.
Ah ouais.
Et est-ce que t'es partie seule, si je comprends bien?
Complètement.
Et tu t'es pas sentie un peu isolée au début, peut-être un peu angoissée parce que là, t'étais quand même, t'avais plus de 20 ans, t'avais jamais vécu à l'étranger, non?
Ouais.
T'as pas eu ce côté où...
Bizarrement, je pense que Internet a beaucoup aidé. Tu vois, il y avait Skype, il y avait... J'avais un forfait qui me coûtait un petit peu cher, mais je pouvais écrire un petit message à ma maman, même si on était un petit peu loin. Il y avait l'Eurostar. Bon, moi, pour aller du Pays Basque,
c'est pas
tout à fait direct, mais je me sentais pas. Moi, j'ai un frère qui voyage vraiment à l'autre bout du monde. Lui, il doit se sentir isolé. Bon, là, très vite, je me suis fait des copains français, pas français. Je savais que je pouvais facilement rentrer, et je crois que j'avais cette jeunesse qui faisait que non. Et puis. Ce qui est quand même assez étrange, parce que quand je suis arrivée à Londres, j'étais encore dans un truc où, il y a très peu de gens qui savent ça, mais je pouvais pas m'endormir sans la télé. Donc comme j'ai jamais eu la télé, ce que j'appelle moi la télé, c'est mon ordinateur avec les épisodes de Friends en boucle. Je ne pouvais pas m'endormir sans ça, c'était mon bruit de fond. Et parce que j'avais beaucoup de mal à rester toute seule, je suis quelqu'un qui suis toujours en retard parce que je déteste attendre qu'on me voit toute seule. Ça, c'était vraiment... Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai osé faire ça? Mais si, je sais, en fait. Il y a une vraie raison, je l'avais oublié. La vraie raison, parce que je pense que sans ça, j'aurais jamais osé, à cause de cette peur de me retrouver toute seule, etc., c'est que, certains s'en souviendront, parce que là, je vous parle donc, j'ai déménagé en 2009 à Londres, il y avait comme bruit qu'on pouvait tous mourir en décembre 2012 de la fin du monde.
Ah oui.
Et en fait, j'ai eu une petite angoisse de 2009 en mode, on va pas paniquer, on va pas faire un suicide collectif. Mais si ça arrive, qu'est-ce que je veux être sûre d'avoir fait avant ça? Et je me suis dit, vivre à Londres.
Ah ouais.
Je l'avais en moi depuis toujours. Et je suis partie, parce que si la vie devait s'arrêter 3 ans après, je voulais avoir fait ça. C'est complètement dingue, mais je suis très contente.
Non, mais grave. Et je pense que limite, c'est un bon exercice qu'on peut donner à tous nos auditeurs et nos auditrices, quoi, de se dire... Là, on est dans l'actualité du coronavirus.
Oui, oui.
Si à la fin de l'année, tu vois, ça devait mal se passer, alors bien sûr, je ne souhaite absolument pas, mais posez-vous la question, qu'est-ce
tout
que
à
vous
fait.
Voulez
avoir Moi, très souvent,
avant, parce
tout
que,
à fait. Moi, très souvent, on me demande quel est mon mantra, tu sais, c'est la grande question. J'ai pas vraiment de mantra. Moi, j'ai toujours à l'idée, tous les matins, que la vie est courte, qu'on peut mourir ce soir, et que la vie est de toute façon trop courte. Et je le vois pas du tout négativement. Je suis pas quelqu'un d'angoissé à propos de la mort, etc. Au contraire, c'est mon essence. C'est le truc qui me fait avancer et avancer vite. Et j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps et je vois la vie en années et je sais pas ce que je ferai l'année prochaine et je m'en fiche et on verra bien. Si déjà j'ai des objectifs cette année, je bosse pour ça, tu vois. Et ça m'est vachement resté au final, ouais.
Cette philosophie de vie,
En fait. Complètement.
Et t'es jamais passé à côté de la mort parce que généralement c'est une réalisation qu'ont les personnes qui ont. Ouais, approcher la mort, quoi.
En fait, à chaque fois, je réponds non. Et après, je me dis, oui, alors je suis quand même née à 7 mois à cause d'une pré-éclampsie. Donc, en fait, j'ai une naissance un petit peu particulière. Mmh. Je suis née vraiment, voilà, je suis une grande prématurée. On m'a transférée dans un autre hôpital. J'ai grandi, enfin, mes premiers jours, mes premières semaines ont été sous couveuse, sans ma maman. Donc, oui, j'ai eu ça, est ce problème d'être toute seule, parce que du coup j'étais vraiment seule à la naissance, ma mère était trop malade dans l'autre hôpital pour venir me voir. J'ai été, tu vois, comment ça s'appelle quand on va à la mairie et qu'on, pas qu'on reconnaît un enfant, mais qu'est-ce qu'il fait le père là quand il va à la mairie?
Ah oui, bah c'est une déclaration de naissance, quoi.
Ouais, ça, y a pas un mot?
Alors je t'avoue que moi c'est pas encore dans mon vocabulaire.
Non, je ne sais plus, mais en tout cas ça s'est fait des jours et des jours après ma naissance,
ouais.
Parce que. On leur disait, bon, oui, vous pouvez aller à la mairie, la déclarer, mais bon...
On ne sait pas si...
On ne sait pas, puis prenez pas trop de photos, enfin...
Ah ouais,
c'était un peu ça, compliqué. Tu vois, ma naissance. Donc, du coup, je pense, et je crois beaucoup aux très vieilles mémoires, même quand on est dans le ventre, je pense que j'ai ça en moi, c'est sûr.
Ah, c'est marrant, tu vois, je me suis jamais posé la question, parce que, tu sais, j'ai une sœur jumelle.
Oui.
Bon, du coup, on est aussi née à 7 mois, mais c'est normal.
Oui, souvent, vous naissez...
Mais il y a peut-être ce truc de... Enfin, c'est bien, sinon j'ai pas du mal à être seule, quoi. Alors pourtant j'ai partagé un ventre pendant 9 mois.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que ça, moi je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais trop, mais même pendant la grossesse, à quel point ça peut influer.
Ah, ben c'est incroyable. Moi j'avais des gros problèmes de santé quand j'étais petite, mais tu sais, le type de choses où il n'y a pas de maladie vraiment. Donc, moi, ma maman qui vraiment s'intéresse à tout, je suis allée voir tout type de médecin plus ou moins classique.
Holistique, ouais.
Et en fait, un jour j'étais très jeune, donc elle était dans la salle. Il a juste ses mains au-dessus de mon ventre, il me touche même pas, tu vois, et il me dit « Ah là là, je vois quelque chose à 5 mois ». Ma mère me regarde en mode « Non, bah 5 mois, elle était plutôt en forme, ça y est, elle allait bien ». Non, 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 5 mois dans le ventre. Et là, elle pleure. Et en fait, elle avait appris, quand j'avais 5 mois dans son ventre, à 5 mois de grossesse, que sa maman avait un cancer.
Ah ouais.
Et en fait, j'avais ça, j'avais cette douleur et ce petit dérèglement qui faisait que j'avais à cette époque peut-être 12-14 ans, qui n'était toujours pas réglé.
Ouais.
Et il m'a aidé là-dessus, tu vois. Donc, hyper incroyable. Intéressant. Et c'est pour ça que faut faire attention à soi quand on est enceinte, parce que ça a commencé déjà.
Mais alors là, c'est rien à voir, mais je me dis ça peut quand même aider des gens, parce que c'est pas la première fois que j'entends des histoires de personnes qui sont allées voir des spécialistes.
Oui.
Enfin, je sais pas si toi c'était un énergiseur, mais j'ai un peu l'impression.
Alors, il y a eu ça, et c'était là, je crois que c'était. Alors, pas de la kinésithérapie peut-être.
D'accord. Parce que si toi tu t'y connais quand même un peu, et c'est un truc dont on n'a jamais parlé sur le podcast, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Je crois beaucoup au truc de. On a chacun des névroses.
Oui.
Dont on n'a même pas forcément conscience.
Complètement.
Et qu'on peut réussir à soigner par une thérapie, mais c'est très long et on peut ne pas y arriver parce que j'ai beaucoup de gens, enfin d'amis qui sont allés voir des thérapeutes et ça n'a pas forcément aidé.
Ouais.
Alors que parfois, aller voir une personne qui vraiment sait s'y prendre et te débloque quelque chose.
Il y a énormément.
Tu vois, ça peut être incroyable. Bien. Donc, si tu t'y connais un peu, alors, qu'est-ce que tu conseillerais?
Moi, je conseillerais. Alors, soit t'as un bon psychologue qui lui va vraiment. Mais c'est vrai que toi-même, il faut que t'aies peut-être un petit. Alors, s'il est bon, il va t'aider à y aller et il va trouver le plus classique, le problème avec le père, le problème avec la mère, le problème avec la sœur jumelle, la naissance. Bon. Ça, c'est classique, mais c'est vrai qu'il faut que toi. T'es aussi ce recul, parfois, toi, tu bloques un peu le truc, si lui est pas bon, bon, ça, c'est la partie très classique. Après, c'est sûr que l'hypnose, mais alors, je parle pas du tout d'hypnose avec un pendule et tu te souviens pas de la séance, pas du tout, c'est ce type d'hypnose où, vraiment, tu te concentres sur toi et là, tu peux décoder des choses. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vas revenir à des anciens souvenirs, tu vas raconter comment ça s'est passé et tu vas le revivre avec elle de comment tu aurais aimé que ça se passe avec dans... Bon, là, il y a des jeux de lumière et tout, bon, bref. Mais tu recodes des choses en profondeur et tu soignes à la racine. C'est hyper intéressant. Mais il y a énormément de
praticiens.
De praticiens qui ont des façons différentes de le faire. La sophrologie aussi, c'est intéressant parce qu'on fait vraiment appel aux capacités qu'on a à l'intérieur pour s'aider aujourd'hui. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'invite vraiment, vraiment à le faire parce que c'est bien beau de parler de ces problèmes aujourd'hui, mais c'est très connu qu'on s'est construit sur des névroses. Et pour aller décoder ça, c'est pas facile. Et il y a aussi, et là tout de suite, je n'ai pas le nom, tu sais, c'est ces gens qui écoutent le corps qui parle. C'est-à-dire que toi, t'as rien à dire. Souvent, ça se fait par les bras. On appuie sur les bras pour avoir des tensions. Et suivant à quoi tu réagis, ça va donner des infos, etc. Et là aussi...
Reiki.
Alors, pas, moi, c'est pas ça que j'avais fait.
Non, mais j'avoue que je vois ce que tu veux dire. Je vois la séance se dérouler.
Ouais.
J'ai pas le nom du praticien.
Bon. Mais du coup, tu vois, des fois, c'est même le corps qui part tout seul, tu vois.
Dingue. Ouais. Et moi, ce qui me fait... Enfin, en fait, là où j'ai toujours un peu des doutes, c'est... Bah, ce sont quand même des domaines, comme ils sont, comme on a dit, non conventionnels.
Oui.
On a toujours peur de pas tomber sur quelqu'un de sérieux.
C'est sûr.
Enfin, moi, je me souviens, j'étais allée voir un magnétiseur... Bon, bah, en fait, ça n'avait pas beaucoup aidé. Mais parce que
je suis tout à fait d'accord.
Tu as 10 000 magnétiseurs.
Non, mais
tu vois, faut trouver les perles rares.
Je suis tout à fait d'accord. Et pour le coup, c'est le bouche à oreille.
Ouais.
Tu vois, vraiment, toutes ces choses, je sais que ça peut faire peur. Je comprends qu'on puisse ne pas y croire. Mais quand t'as ta pote qui dit et ma tante y est allée, et ma grand-mère, et machin, et truc. Et bon, moi, il faut dire que j'ai une très grande ouverture d'esprit là-dessus parce que j'ai grandi comme ça. Avec aucun tabou, et on m'a soignée aux huiles essentielles, fleurs de Bac, etc. depuis que je suis toute petite, donc vraiment, je crois ce que je vois aussi, tu vois. Faut que je le teste, faut que les copines me disent que ça a marché aussi, mais ouais, vraiment le bouche à oreille, parce que alors, ils sont sûrement pas dans les pages jaunes, mais regardez sur internet et tout, malheureusement il y a assez peu de contrôle, ouais. un peu tout le monde peut se sentir
ouais.
bon, donc
Ouais. Prenez des gens de confiance.
Oui, vraiment, vraiment. Mais quand vous l'aurez trouvé, le travail peut être fascinant et plutôt rapide.
Et toi, du coup, tu n'as, après cette période un peu de l'enfance et de l'adolescence où ta maman t'a accompagnée un peu dans ce chemin, est-ce que tu as après fait appel à des praticiens pour x, y raison, ou tu as l'impression que tu avais déjà fait ce travail
Non, c'est réarrivé parce qu'en fait, il y a des peurs qui reviennent ou qui apparaissent. Que plus tard, comme la première à laquelle je pense, c'est ma peur de l'avion et des transports en commun.
Ouais.
C'est arrivé, j'avais 18 ans. Donc, tu vois, ça, c'était pas... j'avais évidemment pas bossé dessus avant. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent et aussi des problèmes auxquels tu décides de t'attaquer que plus tard, tu vois. Beaucoup plus tard. Donc, ou qui te paraissait pas un problème et qui plus tard te dérange, t'handicape. Donc... Non, évidemment que je continue à refaire appel complètement à ce type de personnes. Et c'est vrai que j'en parle assez peu sur mon blog, parce que c'est en plus très touchy de conseiller des gens, tout ça. Et c'est aucun vraiment tabou à dire « là, je vois un psy, là, machin, là, truc ». Mais c'est vrai que c'est pas facile d'en parler. En fait, on en a déjà parlé toutes les deux, c'est... j'oublie tellement jamais la responsabilité qu'on peut avoir sur Internet, qu'il y a des sujets, la contraception, la médecine, faut faire attention parce qu'en fait je suis pas là pour suivre les gens, le avant, le après, le pendant. Donc très facilement, surtout avec mon compte food, quand on va trop loin et que je me dis attends, là c'est une diététicienne que tu dois voir ou même une psychologue, j'hésite pas parce que on a une grosse responsabilité. Et c'est outre le fait que parfois je veux vraiment me sentir légitime, mais parfois je peux, en tant que patiente, ça y est, je suis légitime, mais il faut faire attention.
Ouais, justement, d'accord. Non, mais c'est cool même de signaler que c'est un travail de long terme, quoi, et qu'il n'y a pas de quick fix, tu vois. Ça arrive, ça prend le temps que ça doit prendre. Comme tu dis, parfois on doit y revenir, il y a des sujets qui. Voilà, et il ne faut pas en avoir honte parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de honte autour de ces sujets. Alors que j'ai envie de dire, ça nous concerne tous.
Ouais.
Tu vois,
non, puis j'espère qu'un jour, on pourra dire « Ah, je suis désolée, je ne suis pas dispo cet après-midi, je vais voir mon psy. » Comme tu dirais, voir le dentiste, c'est sa santé, son bien-être.
C'est d'autant plus important, quoi.
Oui.
Et pour revenir, du coup, à la partie blog, parce que du coup, tu as commencé vraiment tôt, que ce soit en termes, toi, d'âge et de période... sur les réseaux, quoi, je veux dire, 2010, c'était quand même assez early. Qu'est-ce que tu as commencé à partager Et au début, ouais, quelle était en gros ta vision un peu du truc? Est-ce que c'était « Ah, j'ai vu telle personne faire ça, moi aussi j'ai envie de partager ». Enfin voilà, qu'est-ce que tu t'es dit et comment après ça a évolué?
Du coup, c'est vrai que je me suis toujours dit que j'avais commencé jeune, mais je crois que quand on voit ces nouvelles générations YouTube, Instagram arriver, je me dis que j'étais...
TikTok.
Ouais, donc finalement, j'avais 20 ans, hein, donc jusque-là... Finalement, j'étais peut-être pas si jeune, mais je suis très contente d'avoir eu cet âge-là parce que, comme les critiques arrivent vite, j'aurais pas du tout eu les épaules adultes et jeunes adultes, donc c'est très bien. Mais sinon, qu'est-ce que je partageais au début? En fait, il y a eu un petit peu deux choses qui se sont mixées, c'est-à-dire que j'ai découvert les blogs. Alors, en fait, il y avait une grosse plateforme qui marchait très 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 bien au UK, mais on l'a eu en France aussi, c'était lookbook.nu. Donc c'était que... C'est de l'Instagram de look.
Ouais.
Et il y avait du like. Pas de commentaires, peut-être des commentaires, si sûrement. Mais voilà, et puis plus t'avais des likes, plus t'étais poussé, donc on découvrait ton compte, on te suivait, et c'était par un site internet, on n'avait pas du tout vraiment de smartphone. Donc par un site internet, je me connectais tout le temps, ça me donnait beaucoup d'inspiration pour mes looks, j'ai dû en poster un petit peu au début. Donc je commençais à être attirée de vouloir partager, ouais, avoir de la visibilité, donc ça m'attirait. Et en fait, j'aimais beaucoup eBay, et... En trouvant des fringues cool, ben parfois les nanas elles disaient plus de photos portées sur. Et là elles balançaient sur un blog de look. Donc j'ai découvert ça, je me disais cool. Et en fait, comme je faisais plein de photos à Londres, mais ça pouvait être du shopping, j'aimais bien voir. À l'époque, mais je crois que c'est toujours le cas, mais vraiment à l'époque ils adoraient Paris et la France. Ouais. Donc du coup il y avait plein de t-shirts avec la Tour Eiffel, des petits macarons, donc je prenais des photos un petit peu partout chez Topshop, donc je faisais des articles par thème comme ça. Et en fait je voulais me créer simplement un site pour partager mes photos et le blog était le plus simple, c'était gratuit, c'était ouais. Blogspot à l'époque. Donc ça a été un mix de, bah il y en a qui font ça pour leur look et puis ça a l'air cool, je peux mettre mes photos et en fait c'est en rentrant à Paris où j'ai découvert plein de blogueuses mode. Et là, je me suis dit, eh, mais en fait, j'ai un blog, moi aussi. Et au début, c'était vraiment des photos de gens, de monuments, de shopping. Et en arrivant en France, vraiment, j'ai trouvé la force de me prendre en photo, moi. Et là, ça a tout changé parce que là, tu mets un visage sur le blog. Et là, les commentaires, tout ça. Et en fait, bah, du coup, elle voyait que j'avais une veste customisée. Elle me demandait, comment t'as fait ça? Oh, bah, attends, je vais te montrer. Et en fait, ça s'est fait vraiment tout seul. En fait, depuis le début... Les commentaires sont précieux et toute mon inspiration vient de ça. Donc en fait, quand ça fait trois fois qu'on me dit « Mais c'est fou, t'as vraiment bonne mine, qu'est-ce que tu mets comme fond de teint ?» Bon bah écoute, si ça vous intéresse, mais pour moi, je répondais à deux personnes. Hein. Et puis en fait, il y a plein de vues, tu te dis « Ah, c'est donc un sujet qui intéresse. » Et en fait, c'est aussi ensemble qu'on est allé vers des sujets, qu'on en a arrêté, qu'on en a commencé d'autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me fais surtout confiance. Mais ce qui est super, c'est que comme avec certains et certaines, on se suit, elles me suivent depuis des années... Elles me suivent dans mes aventures et des fois je me dis que si j'apprenais à réparer une voiture, on irait tous ensemble parce que je suis juste passionnée et je réponds à des... Comme on a à peu près le même âge, je pense que quand je me mets à me poser des questions, c'est des questions de mon âge, tu vois, donc ça a suivi sans me poser de questions et jamais je me suis dit « Ouh là là, faut que j'aille sur ce réseau parce que c'est cool. Ouais, attends, c'est ringard de parler de ça, en ce moment, faut parler de ça. » Pas du tout. C'est sûr que je suis restée une lectrice, je regarde YouTube, je lis des blogs, donc ça m'inspire, ça c'est clair et net. Mais par contre, je regarde pas qu'est-ce qui est tendance, les hashtags, les trucs, pas du tout.
Ouais, ouais, c'est intéressant parce que c'était pas du tout en fait le même fonctionnement il y a 10 ans, tu vois. Je veux dire, en fait, les gens sont tombés sur ton blog.
Je ne sais même pas comment.
Voilà, c'était un peu la magie, quoi.
Ah ouais.
C'est aujourd'hui.
Alors, il y a eu un truc au début qui existe quand même un petit peu moins aujourd'hui, en tout cas entre blogueuses et instagrammeuses de mon âge, parce que les jeunes le font beaucoup, on se faisait découvrir les uns les autres.
D'accord.
Très, très rapidement, il y a eu des événements marques, et en fait, on se rencontrait, et on était trop contents de faire le même métier, et de se parler, enfin, métier, c'était pas encore un métier, d'ailleurs, on travaillait tous à côté, mais on était trop contents d'en parler, on se faisait découvrir des choses, et en fait, on se disait, ah, ça te dit pas, on adorait les thèmes de photos, chose qu'aujourd'hui, on fait plus du tout. Donc, on faisait des thèmes, dans des endroits, on s'habillait pareil, on faisait du stylisme, et en fait, un peu des collabs, vraiment, et on se faisait découvrir les uns les autres. Donc ça, c'est clair que ça a commencé comme ça. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient déjà une petite communauté établie, puisque même si ça fait 10 ans, ben, je suis pas dans les premières. Donc, je pense à Marion Rox, qui est aujourd'hui un Instagram vraiment tourné yoga, hyper intéressant. Voilà, des gens comme ça qui ont commencé très 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 tôt et que j'ai rencontré. Et c'est clair que j'ai que cette visibilité m'a apporté beaucoup.
Ouais, je comprends. C'est vrai que c'était vraiment... Moi, je ne suivais pas encore de blogueuse à cette époque. Mais bon, j'étais jeune, mais je voyais quand même ce qui se faisait.
Oui.
Et je me demande, du coup, est-ce que tu as vraiment pris le pli facilement, tu vois? Est-ce que ça a été très fluide? Tu vois, tu t'es, parce que d'après ce que tu me dis, c'est vraiment, ouais, tu as suivi, tu t'es écouté, tu as suivi le flow. Mais est-ce que parfois, tu t'es quand même dit, je ne sais pas faire ça,
ouais,
faut que j'apprenne. Est-ce que parfois, tu t'es dit, non, en fait, trop de travail en même temps? Est-ce que parfois, tu as eu des phases où trop de haine? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où tu t'as remis un peu en question cette belle histoire qui était en train de se développer, quoi?
Ben, j'avoue, jamais, parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que je suis. Et c'est vrai que parfois on me dit mais comment tu fais pour arriver à avoir cette confiance, ce machin, et en fait c'est vraiment inné. Il y a des choses, je peux apprendre plein de trucs, je peux faire des tutos sur plein de trucs, mais ça c'est vraiment, je pense, mon éducation. Mon frère il est cuistot, moi j'ai fait les beaux-arts. Je pense qu'il y a plein de familles où lycée hôtelier et beaux-arts, oui bon, on va se calmer, on va aller faire des trucs sérieux s'il vous plaît. Et en fait moi, déjà j'ai une maman qui est sophrologue, j'ai mes deux parents sont profession libérale, donc ça a été vraiment fais des trucs par passion, le reste suivra, c'est-à-dire être heureux, gagner de l'argent, avoir la motivation de travailler. Et en fait, je suis une bosseuse, donc déjà, tant que ça me plaisait, j'y vais sans réfléchir, quel que soit le nombre d'heures que ça me demande. Et en fait, j'ai jamais douté et j'ai suivi. Et c'est même en répondant à des interviews, en lisant des choses sur les copines, où des fois, je me posais deux secondes en mode... Attends, mais c'est vrai qu'on en est là, et on a ce stage-là, et on a créé notre métier, et c'est dingue, quoi. Et en fait, c'est vrai que... Alors, ça s'est beaucoup calmé, mais moi, j'ai évidemment vécu le tout début sans gagner d'argent. Ensuite, ça a commencé, donc ça n'a pas plu du tout, parce que... Mais quoi, cette nana qui se comporte comme si elle était ma copine, elle me donne des bons plans, mais en fait, elle est payée pour dire ça. Mais il y a eu un moment compliqué, et même avec les marques. Jusque-là, oui, envoie-moi ça, ça me fera plaisir. Et puis un moment, oui, mais par contre, si tu veux qu'on en parle, peut-être qu'on pourrait parler d'un budget et tout. Elle ne comprenait pas après plusieurs années, les marques, tu vois.
Ouais.
Mais tout ça, ça... Mais,
attends, pardon, je me permets de te couper parce que je me dis, qui a commencé à instaurer ça, en fait? Est-ce que c'est venu, tu penses, de la part des créateurs de contenu ou des marques? Parce que c'est vrai que ça a été révolutionnaire, quoi.
J'arriverai pas à savoir dans quel sens... Ça... Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je dirais que ça vient des marques. Qui venait, et attention, si vous savez de quoi je parle, c'est vraiment que vous êtes une blogueuse dinosaure, c'était des plateformes qui s'appelaient Buzzéa, qui s'appelaient Buzz Paradise, qui s'appelaient des choses comme ça.
Ouais.
Et en fait, alors ça n'avait aucun humain, c'est-à-dire qu'on s'inscrivait, on choisissait une campagne, on était payé des dizaines d'euros. Hein. C'était vraiment, vraiment des tout petits budgets, mais c'était incroyable. On faisait un truc qu'on faisait le week-end en hobby et on avait quelques euros en poche, c'était fou. Donc, ils pouvaient soit nous mettre des publicités sur le côté de notre blog, ce qui se fait plus du tout, mais il y avait ça. Des articles sponsorisés, donc soit avec des images imposées, des mots imposés, des phrases imposées. C'était beaucoup plus particulier. Et petit à petit, ces agences, certaines, se sont transformées en marques. Je me demande si Au Féminin vient pas de ça, d'ailleurs.
Ah,
j'ai un gros doute, mais je me demande si de base, il n'y a pas une histoire de plateforme. Ça s'appelait vraiment des plateformes. Et en fait, très vite, il y a des agences, dont une vraiment créée par, à l'époque, le petit ami du blog de Betty, qui était vraiment la queen.
Ouais.
Et lui, il a compris ça, il a créé une agence, il a mis en relation les marques. Je pense que tout s'est fait en même temps.
Ouais.
Mais, et il y a eu là-dedans l'affiliation où les marques, enfin, où les plateformes ont compris que s'ils nous aidaient à créer de l'affiliation, c'est-à-dire des liens qu'on peut traquer et du coup on peut toucher des pourcentages sur les ventes, je pense que eux sont allés contacter les marques et les influenceurs et nous ont... Tout s'est fait en même temps. Tout s'est fait en même temps.
C'est assez logique, quoi. Comme souvent, c'est un tiers qui a vu une opportunité,
bien sûr,
qui s'est dit on peut prendre de l'argent à la
bien
marque
sûr.
Et voilà, une commission sur ce qui sera donné après aux créateurs de
contenu. Et tout le monde a fait son petit truc, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont même carrément créé leur plateforme d'affiliation en interne, il y en a qui sont passés par des plateformes, il y a des marques avec lesquelles on travaille depuis toujours en direct, d'autres, tout depuis toujours c'est en agence ou par... Et tous les ans, ça change, en fait.
C'est
incroyable. C'est que tous les ans, ça change. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, entre le fait que ça fasse longtemps et... c'est il y a très longtemps et je ne saurais plus dans quel ordre, mais il y a eu un mix de... voilà. Et puis, si ça se trouve, c'est dans cet ordre-là que ça a commencé pour moi, mais peut-être que certaines ont tout de suite commencé en agence, puis en affiliation, puis... Et là, les plateformes sont en train de revenir.
Ouais, non, il y a différents schémas, c'est clair. Et du coup, quand est-ce que toi, t'as commencé à en vivre et tu t'es dit, ok, c'est un hobby, c'est une passion, mais je peux en faire mon métier?
Ouais, alors j'ai commencé à avoir mon premier vrai job, qui n'était donc pas un stage, mais en freelance. J'ai jamais eu de CDI ou de CDD. Donc j'étais en freelance rédactrice mode homme de 2011 à 2012. En 2012, on me propose d'écrire mon premier livre Do It Yourself.
Ah oui, c'est très tôt. Ouais. Ça faisait 2 ans et demi que tu bloguais.
Ouais, et... C'était fou. Mais il faut dire qu'on était très peu. Donc ouais. Ceux qui ont cru en nous dès le début, il n'y avait pas 1000 choix. Je ne veux pas me descendre, mais voilà. Et du coup, de toute façon, tout mon parcours, c'est une suite de gens qui m'ont fait confiance. Donc ma première éditrice, Mathilde, qui m'appelle. Et dans ce même temps, je quitte cette agence en me disant « je n'arriverai jamais à écrire le livre en même temps ». Donc vraiment, septembre, je quitte l'agence. Octobre, je commence à écrire le livre. Et je me dis, et dès que j'aurai sorti ce gros bébé dans quelques mois, je me retrouve un boulot. Et en fait, c'est précisément le moment où ça a décollé.
Okay.
Où on a commencé à être rémunéré. Et même si c'était pas beaucoup d'argent, ça a suffi pour me dire, bon... Mais encore une fois, je réfléchis à rien. Je me suis même pas dit, attends un peu. Les mois passent, et il se passe des choses. Et je suis sur un deuxième livre, et je suis... Et puis un jour, tu te dis, ah oui, en fait, je gagne vraiment un SMIC, tout va bien, quoi.
Ouais, c'est génial. Voilà. Mais le message que j'adore, c'est vraiment ce que tu disais, que tes parents t'ont transmis, c'est fais les choses par passion,
ouais.
Le reste suivra. Je crois que ce sera le titre de l'épisode. Parce que personnellement, c'est quelque chose qu'on m'a jamais dit. Donc c'est vrai que il faut s'en rendre compte,
ouais.
Quoi. Il faut qu'on te le dise, et c'est un peu le but du podcast.
Tout
aussi,
à fait.
Parce que
et c'est vrai que parfois, on me dit, oui, mais d'accord, mais ça veut dire que je vais laisser mon travail. Alors... C'est tout arrive à des moments particuliers, et je sais que pour certains il faut vraiment vraiment bousculer le destin, et je suis pas, enfin franchement je suis même pas fière de ce truc là dans le sens où il y a des nanas qui arrêtent de bosser et qui se lancent, mais c'est dingue. Et moi j'ai pas eu ça, c'est à dire que quand je travaillais en freelance, j'étais à 3/5, donc 3,5/5, donc j'avais un jour et demi par semaine pour bosser sur le blog, donc tu vois ça s'est fait petit à petit comme il fallait. Je me suis pas tout arrêtée en mode grosse crise d'angoisse, qu'est-ce qui va se passer. J'ai eu beaucoup de chance, donc les filles qui font ça, gros soutien. Et surtout, donc ça peut être un bon plan pour changer de carrière, c'est le moitié temps quoi, mais surtout on m'a dit un jour, bah oui mais t'as eu bien la chance avec tes parents, et je m'en suis vraiment rendu compte en mode bah oui, parce qu'on vraiment on ne grandit pas avec les mêmes valeurs, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre à l'époque sur les angoisses et les peurs, parce que je me suis dit la seule raison pour lesquelles les gens sont pas heureux et foncent pas et font pas ce qui leur fait plaisir, etc., c'est leur peur. Leur peur de décevoir, leur peur d'être seule, leur peur de pas y arriver, leur peur du jugement des autres, de qu'est-ce qu'on va dire les parents, de pas gagner d'argent, de tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des mots du siècle. C'est les peurs.
C'est
et moi, ça me fait tellement, tellement de peine. Des fois, je me pose 2 secondes et je me dis, mais combien de gens doivent pas être heureux dans leur relation, dans leur métier, dans la ville dans laquelle ils sont, et tout ça sous couvert d'excuses plus bidons les unes que les autres. Et moi, ça me fait réellement de la peine pour ces gens. Et ce livre, Je suis happy, c'est vraiment pour les aider à déconstruire ça, parce que c'est le mot.
Ouais.
Il faut déconstruire des schémas, parce que parfois, on me sort des excuses qui, à la limite, sont recevables. Mais à quel prix? Au prix de pas être heureux et de faire un burn-out dans 6 mois? Non.
C'est ça.
Non.
Toujours voir ce qui est en jeu, en fait.
Ouais. Hein.
Et parfois même se dire, bon, bah, je vais écrire le pire scénario possible. Comme ça, tu le vis un peu par procuration et tu te rends compte qu'à la fin, t'es pas mort.
Enfin, ah, c'est voilà. Rigolo. Alors moi qui suis vraiment vraiment dans le positif, j'aurais jamais pensé ça comme ça, mais...
Je l'ai lu dans un livre...
Pour contrer, ça peut être très intéressant. Moi, j'irais jusqu'à dire... Moi, ce que j'aime bien dire à des copines qui sont un petit peu mal, elles sont en train de pleurer côté de toi, si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Et parfois, c'est assez huge et bon, on va attaquer les choses une par une, parce que ça, c'est aussi pour ça que j'arrive à parfois déplacer des montagnes, c'est que étape par étape, faut pas se faire des to-do longs comme le bras, une chose à la fois, dans un ordre logique, ça, c'est cool. Et surtout, parfois, il suffit de peu. Avec ta baguette magique, tu dis, bon, attends, j'adore mon appart, j'aime bien ma vie, j'aime bien mon mec, je crois que je voudrais soit démissionner ou même changer de poste. Bon, peut-être qu'il faudrait juste que j'aille voir mon patron. Et parfois, il faut redescendre, tu vois, et prendre du recul Et parfois, les changements sont énormes, mais vas-y. Et en fait, il n'y a que toi qui peux le faire. Hein.
Ouais, ça, c'est aussi un message que je partage beaucoup sur le podcast. Et de toute façon, rien n'est figé.
Ah,
et tu as toujours le pouvoir de faire changer les choses. Toujours, même si
toujours.
C'est plus difficile, bah, tu peux.
Je suis vraiment convaincue qu'il y a des situations, mais bloquées de chez bloquées. Et va falloir bosser, et ça prendra peut-être des années. Mais par contre, il n'y a aucune excuse pour changer. C'est pas possible.
On est d'accord, on est alignés. Mais c'est marrant que tu parles des to-do et du fait qu'elles n'ont pas forcément à être plus longues que le bras. Parce que de l'extérieur, si aujourd'hui on voit aujourd'hui tout ce que tu fais, on peut se dire mais ces journées, ça doit être dingue. Et voilà, je sais qu'en plus, voilà, tes journées sont quand même très remplies. Mais est-ce que tu peux nous dire, bah, déjà, quand est-ce qu'est venu le premier projet entrepreneurial qui, je crois, a été le programme Power Diet que tu as fait avec Bien dans mon slip. Alors, je dis ça, en fait, c'est peut-être juste moi qui ai d'abord vu ça.
Je t'avoue que je ne sais même plus, parce que finalement, le livre, je l'ai fait toute seule. Tu vois, mes premiers bouquins de Do It Yourself, je faisais les photos. Comme en plus, c'est du Do It Yourself, il faut avoir customisé tout. Ou parfois, j'ai fait des bouquins où j'ai tissé 100 bracelets brésiliens.
J'adore.
T'avais vraiment,
en fait, le samedi soir.
Ah ouais, vraiment. Ah ben là, vraiment jour et nuit, quoi. Donc finalement, il y en a certains que j'ai vraiment fait toute seule. Après, je sais même pas le premier, parce que finalement, j'ai aussi très vite fait des collabs avec des marques. Donc tu vois, c'est aussi créer des collections, tout ça. Donc vraiment seule, je dirais que c'est la marque quand même. Tu vois, il y a un an, mais en même temps, dans les codes qu'on connaît, oui, c'est ça. Après, c'est aussi ce blog pendant 10 ans où tous les ans, je fais des trucs nouveaux. Il y a un projet aussi qui me tient vraiment à cœur. J'en ai pas parlé, mais ça m'a quand même habité pendant 2 ans. Et j'ai fait ça avec Stéphanie Allerme, connue sous le nom de Mademoiselle Pierre sur Instagram, même si elle fait toute autre chose aujourd'hui. En fait, on faisait des My Home Tours. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on bossait avec Abritel qui nous louait des espaces. Donc, ça pouvait être des maisons ou des apparts un petit peu partout en France. On l'a fait à Lyon, on l'a fait 2 fois à Paris, on l'a fait à Biarritz, à Cannes, à Bordeaux. Et en fait, on déménageait l'endroit. On réaménageait avec des partenaires, déco, pour vraiment que ce soit mon endroit, comme si je les recevais à la maison, mes lectrices, tu vois. Et en fait, sur 3 jours, toutes les 2 heures, je recevais 10 lectrices. Ça pouvait être autour d'un cours de cuisine, un cours de sport, un cours de sophro, un talk, du do-it-yourself, de la food. On déjeunait tout simplement, on buvait des cocktails, on faisait du karaoké, un cours de photo. On a tout fait. Il y a même des moments où elle passait 2 jours, certaines, 2 jours complets avec moi. On a monté des marches à Cannes. Après, ça s'est même exporté. On est parti à Toronto. Enfin, et ça, ça a été fou parce que c'était des déménagements à chaque fois. C'était des plannings de dingue. Rien que pour faire les tirages au sort, inviter les gens, que tout arrive au même endroit le même jour. 3 jours après, on devait repartir. On avait fait des photos de tout et on devait tout replacer. Et c'est vraiment des événements presque à hauteur de marque, tu vois.
Ouais.
Et parfois, on avait plus de 10 marques partenaires. Donc, tout le monde devait s'y retrouver avec de la visibilité. C'était fou.
Je connaissais pas ce projet. J'avais pas internet à l'époque et c'est absolument
c'était
fou,
entre, je crois, 2016-2017, je dirais, je crois.
Ouais, ok. Ah ouais, j'avoue, c'est assez big, ça.
Ouais.
Mais donc, du coup, comment est-ce que tu as commencé à t'organiser quand c'est vraiment devenu... Là, il y a Camille qui passe. On veut du vrai. Comment est-ce que tu as commencé à t'organiser quand tes projets se sont multipliés? Parce qu'au final, tu vois, c'est ça. Est-ce que tu t'es rapidement entourée? Enfin, en gros, qu'est-ce qui a fait que t'es pas mort d'un burn-out, simplement?
C'est vrai. Alors, j'y vois 3 questions. Déjà, comment ça se fait que j'ai osé avoir autant d'idées, etc.? Bah, parce que tout simplement, je me dis que c'est faisable. Et en fait, très très vite, mais vraiment très très vite dans ce métier, quand j'ai réalisé tous les contacts que je pouvais me faire, je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Et je veux en faire quelque chose.
Ouais.
C'est trop génial de se dire qu'on peut appeler Abritel et qu'ils peuvent nous prêter un lieu en échange de visibilité, évidemment, que je peux convaincre Caudalie de faire venir une masseuse pendant la soirée pour qu'on ait des soins. Et en fait, j'avais trop envie de... Déjà, grosse envie de rencontrer mes lectrices, tout le temps, depuis toujours et encore aujourd'hui. Et de m'amuser avec tous ces contacts et ces marques que j'adore pour les faire se rencontrer, les marques, parce que déjà, elles sont pas trop l'habitude de se mélanger, et de créer des événements qui me ressemblent. Et donc ça, déjà, ça m'a tout de suite éclaté. Et ensuite, je me suis entourée, alors déjà avec Stéphanie sur ce projet, sinon tout le reste complètement seul. Et en fait, via un My Home Tour, donc, je rencontre une lectrice via un cours de yoga brunch, Et en fait, à chaque fois, si vous m'écoutez, que vous m'avez déjà rencontré pendant un événement, on commence toujours de la même façon. Je fais un tour de table. Comment vous vous appelez? Quel âge vous avez? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Ça ouvre forcément beaucoup de dialogues parce que c'est très rigolo. Elles ont des métiers vraiment en commun, toujours. C'est très, très drôle. Beaucoup d'infirmières, beaucoup de juristes. C'est très, très rigolo. Et donc, j'aime bien. Et en fait, il y en a une qui se présente, qui m'explique ce qu'elle faisait avant, ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Et elle, je me dis, alors elle... Soit elle, il faut qu'elle devienne blogueuse, avec, vu ses envies, soit il faut qu'elle devienne assistante de blogueuse. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque, mais je me suis dit, oh, ça répond exactement à tout ce qu'elle me dit. Au bout de 2 heures, je comprends, pour moi, il y a des gens, surtout dans ce métier de l'ombre et de la lumière, c'est... alors, il n'y a rien de dépréciatif pour l'un comme pour l'autre. Il y a des gens qui sont heureux à la lumière, il y a des gens qui détestent l'être. Charlotte, j'ai tout de suite compris que c'était quelqu'un de l'ombre. C'est d'ailleurs très très rare qu'elle l'accepte, que je la mette sur une story. C'est vraiment pas son truc. Mais par contre, elle est fière de son métier et de savoir que grâce à elle, dans l'ombre, j'arrive moi à continuer mon métier dans la lumière. Et c'est fantastique. Et en fait, je l'ai très vite contactée pour faire vite. J'ai eu un gros souci le lendemain, je l'ai appelée, elle a assuré, j'ai voulu lui laisser une mission de 2 jours, elle a trop assuré, donc j'ai continué un 4e jour, et le 4e jour, je lui ai proposé un job, et ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble, quoi.
Dingue.
Et ça, ça a débloqué un truc en mode, bon, je peux déléguer.
Ouais.
Et du coup, je travaille avec 2-3 photographes avec lesquels je peux travailler parfois, parfois non. Même une monteuse, ça peut m'arriver quand vraiment le montage, alors soit sera beaucoup mieux parce que c'est elle, ou soit ça va me prendre un temps fou. Et du temps, avec vraiment à côté, je pourrais faire quelque chose de tellement plus créatif, où j'ai tellement plus d'intérêt à passer ce temps-là, je me dis, vas-y, délègue. Une graphiste, une illustratrice, je m'entoure de gens pour déjà, en fait, très vite quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis aussi dit, très bien, je suis payée, je suis hyper à l'aise avec ça, alors là, c'est pas de souci, j'ai un chéri qui a travaillé dans la pub, donc je sais ce que vaut une campagne de communication, je pense que quand on met des influenceurs dans une campagne de communication, vraiment, on joue un rôle, tout travail mérite salaire, toute visibilité mérite salaire. C'est donc comme ça que je gagne ma vie. Par contre, qui dit marque qui te paye, moi je trouve qu'il faut se bouger les fesses pour leur rendre un truc canon, si ce n'est encore mieux que quand tu en parles de toi-même.
Ouais.
Ça ne change rien sur mon avis, c'est toujours aussi sincère, je peux te dire qu'on ne m'impose rien du tout, ou alors on m'impose des trucs où je me dis, c'est normal qu'on m'impose ça, quand on me dit, c'est très important qu'on dise ça sur la marque, ça me paraît normal, moi je fais beaucoup de recherches quand je parle d'une marque, parce qu'il y a tellement de choses à raconter en storytelling, donc je le fais à fond, donc ça ne me dérange pas. Mais par contre, je me dis toujours, attends, il y a un budget, certes je le mérite parce que c'est de la visibilité, mais par contre, surtout en plus que mes lectrices, je vais leur proposer un contenu sponsorisé, voilà, c'est l'occasion de donc bosser avec une photographe, faire des trucs. Donc c'est aussi avec ça que ça m'est venu de me dire, entoure-toi, fais des trucs canons, quoi. Se prendre, travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, et c'est comme ça que je n'ai pas de burn-out, c'est que je suis bien entourée et que je sais écouter les signes qui me disent, on se calme. Voilà, si tu vas faire... Des fois, et je vais te dire un truc, non, je ne suis pas ministre, tout ce qui peut faire, tout ce qui doit être fait aujourd'hui peut être fait demain. Il y a des deadlines. J'espère être quelqu'un de très sérieux dans mon travail. Donc, quand on me donne des deadlines, parce que oui, les marques parfois veulent valider une vidéo, une légende, une photo, j'essaye vraiment de m'y tenir. Mais tout le reste, si je suis fatiguée, si je sens que finalement ce soir il y a un truc perso qui me ferait plus plaisir, vraiment ce métier ça m'a appris à dire oui à des trucs qui me font plaisir, non à des trucs qui me font pas plaisir. Et j'ai à peine mal à la gorge, alors là, j'entends ma mère. Alors déjà, j'entends ma mère qui va me dire « Il y a quelque chose qui passe pas, Margot ? T'as envie de dire quelque chose qui passe pas dans ta gorge ?» Donc ça, elle vraiment, elle me dit toujours, c'est les mots du corps, non pas M-A-U-X, mais M-O-T-S. Donc ça, je m'écoute beaucoup, je me dis toujours « Pourquoi t'as mal là ?»
Le mal a dit.
Le mal a dit, exactement. Donc ça, j'ai vraiment grandi comme ça. Donc dès que j'ai mal quelque part, je me dis « Pourquoi ?» Et surtout, je prends du temps. Et je suis malade, très bien. Une demi-journée au lit, la journée au lit, s'il le faut, j'annule tout. C'est pas souvent, mais si aussi c'est pas souvent et que je suis très rarement bloquée au lit, c'est que on faut le voir avant, tu vois. Et quelque chose que j'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais allez, je te le dis à toi, on se sent à l'aise. Le week-end dernier, vraiment, la semaine dernière, c'était une semaine difficile. Et j'en parlais avec mon amie Lola et je lui dis, je pense qu'on va se faire un petit week-end avec Nico, ça va nous faire du bien, partir un petit peu loin, pas loin de Paris, mais ça va être cool. Et elle me dit, pourquoi tu pars pas solo? Et en fait, je me suis dit, mais punaise, c'est vrai que ça fait partie des possibilités, mais en même temps, ça ne devient pas tout seul tant que tu l'as jamais fait un jour. Et pourtant, je suis du genre à faire un ciné toute seule et tout, mais... Enfin, tu regardes les pubs à la télé, etc., dans le métro, tu vois pas de nana qui se fait un petit week-end solo à Deauville. Hein. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin et envie. Et j'ai dit, Nico, je suis désolée, en fait, je vais annuler notre week-end et je vais partir. Et c'était trop cool.
J'adore.
Et là, je me suis dit, est-ce que je viens de repousser mon burn-out ? Bien sûr. C'est très possible.
On va déjà la stratégie, le repousser.
Ouais.
Le repousser
le non, je veux vraiment pas dire repousser. Quand ça va pas, je prends du temps.
Ouais, mais ça, c'est...
Et
ça, c'est
j'ouvre la cocotte.
Ouais, ouais, je pense... Enfin, on devrait tous s'inspirer de ça, parce qu'il y a cette pression, parfois, à toujours faire plus. Et est-ce que toi, t'as... Enfin, en fait, même comment tu t'organises au quotidien, tu vois? Est-ce que tu t'es réparti des jours où tu fais des rendez-vous, des jours où tu fais du travail plus créa? Est-ce que tu t'es fixé maintenant un jour off? Est-ce que ça dépend? Enfin, tu vois, est-ce que tu t'es un peu créé une structure?
Eh ben, pas du tout.
Travail.
C'est-à-dire que sur un mois, je sens bien qu'il y a une atmosphère générale qui se crée, mais en réalité, il n'y a pas une journée pareille. Mmh. Et je m'écoute beaucoup. C'est hyper, hyper instinctif. Si un jour, je me réveille vraiment, je me suis un peu maquillée, je me trouve hyper jolie, j'ai plein de trucs à dire, ben vas-y, filme 4 vidéos, meuf, profites-en. Mmh. T'as la tchatche, tu te sens bien. Parce qu'on va pas se mentir, hein, dans une vidéo, quand tu te réveilles et que t'as une tête de je sais pas quoi, je pense qu'on est tous pareils, c'est pas le jour où t'as envie de faire des photos ou des vidéos. Mmh. Donc il y a des jours, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de faire des stories, j'ai envie de faire un live. Tu vois, par exemple, des fois, j'annule un truc parce que j'ai envie de parler à mes lectrices et je fais un live. Mmh. C'est très, très, très... c'est quand même un peu à l'instinct. Après, il y a toutes ces deadlines, le fait que Charlotte vienne chez moi. Bon, bah, le jour où elle vient, je sais que c'est administratif, mail, je suis un peu obligée. Mais en fait, j'ai pas fait ce métier-là pour ça.
Mmh.
Non. Je suis pas freelance pour m'imposer des trucs. Là, l'autre jour, je regarde ma salle de sport, je vois qu'il y a un cours à 9h. Bah, je vais commencer la journée à 10h, il n'y a pas de souci, tu vois. Mmh. Donc, j'aimerais des fois me dire, allez, enferme-toi à la maison deux jours et écris plein d'articles. Des fois, ça marche. Et puis, des fois, j'ai pas envie, je repousse un peu. Mmh. Et donc, en fait, j'ai une to-do qui est un petit peu classée par idées de vidéos, idées d'articles, trucs qui seraient pas mal à faire. Genre, l'autre jour, je me suis dit, ce serait pas mal que je poste sur LinkedIn des petits trucs.
Ouais,
il y a plein de gens qui font ça.
Ouais.
Bon, mais c'est dans ma to-do, mais il n'y a pas vraiment de jour dans ma to-do. Il y a des trucs à faire, classés par style de choses.
Ouais.
Et puis, je pioche, en fait.
Mm.
Je pioche. Donc, il y a des jours, je fais un peu de tout. Il y a des jours, j'écris que des vidéos. Il y a des jours, je me fais toute une liste d'idées photos et comme ça, je contacte ma photographe et au plus vite, j'essaye de caler un shooting pour qu'on le fasse. J'aime ça parce que comme ça, je suis toujours en train de faire ce que j'aime. Parce que c'est pas tous les jours que j'aime faire les mêmes choses.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, par exemple, trier son armoire, il y a des jours, ça te fait trop du bien. Il y a des jours, t'as pas du tout envie de le faire. Ben moi, c'est ça pour tout. Et j'ai le choix de, pour 95% des choses, de choisir quand et comment et à quelle heure je le fais. Et du coup, j'en profite.
Mais en fait, j'adore échanger avec des gens sur mon podcast et parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on cherche tous et toutes à avoir des petits hacks de la vie. Et il y en a, tu vois. Moi, j'essaie de partager des trucs qui marchent pour moi, mais au fond, on est toutes différentes.
Ouais.
Et en fait, c'est bien d'entendre parce que ça va nous donner des idées, mais en fait, au final, enfin, moi, je vois, tu vois, si jamais le matin, je me réveillais et je savais pas ce que j'avais... Enfin, j'avais juste un truc un peu comme toi, des guidelines, je suis tellement indécise que je saurais pas quoi choisir.
Ouais.
Et moi, le fait de savoir que j'ai ça, ça et ça à faire, et que je me suis prévu chaque jour, à peu près de la semaine, telle activité, et aussi, moi, j'arrive pas à faire une seule chose dans la journée, j'ai besoin de faire 4-5 trucs différents, et je sais que sinon, bah, moi, ça me motiverait pas. Et donc, en fait, c'est dingue, toi, c'est hyper.
Donc, toi, t'as la semaine.
C'est hyper spontané.
Toi, t'as la semaine, tu sais.
Moi, j'ai la semaine. Alors, comme toi, si à un moment. En fait, j'ai la flemme. Enfin,
tu switches.
Je sais pas si le mot flemme est correct parce que j'avoue.
Non, c'est pas l'envie du moment.
Je suis assez épargnée de la flemme, mais c'est pas voilà. Je me rends compte que là, ça me chauffe.
C'est très différent de la flemme, hein, parce que moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui a la flemme.
Moi non plus.
Mais c'est pas le moment.
Ça me chauffe pas. J'ai plus envie de faire tel truc. Je switch. Tu vois, je suis pas du tout non plus maniaque, etc. Mais j'aime bien ça. En fait, ça me rassure au début de chaque semaine de savoir que ça va être fait. Tout ça.
Ok.
Dans la semaine, ça va être fait. Et donc, je répartis après chaque jour, bah voilà, ça sera fait tel jour, ça sera fait tel jour. Et aussi parce que moi, tu sais, j'ai chaque semaine un podcast, chaque semaine une vidéo.
Et oui.
Et je marche bien avec ce truc de tel jour, tel truc doit sortir.
Mais je comprends
parce que,
mille
comme
fois.
Comme tu disais, la date butoir
de
ton voyage à Londres, bah moi, chaque dimanche, t'as une vidéo sur YouTube qui sort.
Et ah, moi, j'ai pas de jour.
Il faut qu'elle soit prête.
J'ai jamais eu de jour, j'ai jamais, jamais dit je sors un article tout. Parce qu'en fait,
C'est fou.
Je sais pas.
Même, comme tu dis,
j'ai pas besoin de ça pour me rajouter, pour me rassurer. En même temps, je sais aussi que dans ma note to do, je peux te la montrer, elle est énorme. Il y a une petite partie deadline. Ouais. Parce que voilà, je suis. Parce que ça. C'est marrant parce qu'en le disant, j'ai presque l'impression qu'on peut me prendre pour quelqu'un d'assez yolo, alors que pas du tout. C'est-à-dire au contraire, ça me fait faire trop de trucs que si je m'étais fait une to-do de 5 choses à faire, par exemple. Mais ouais, j'aime bien être dans ce côté instinct, et ce qui fait que ça me fait plaisir tout le temps. Quoi,
mais on en revient, je pense, comme on disait, à l'enfance et à l'éducation. Enfin, d'abord, parce que tu me dis, t'as eu des parents... voilà, qui t'ont laissé assez libre, qui t'ont souvent dit d'écouter ton instinct. Moi, on n'a jamais dit d'écouter mon instinct. Genre, j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui, tu vois.
Et surtout, donc, ils se sont très vite amusés de mon côté très, tu vois, un peu, comment dire... en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup faire plein de trucs en même temps. Mm. Et je sais que ça a énervé mes grands-parents, ça a énervé, parce que je suis capable de... Je me revois encore petite. Je pouvais regarder la télé, avoir une BD ouverte... du dessin, le petit-déj, je pouvais même rajouter la radio, hein, fallait pas me chauffer. ça rendait fou les gens.
Ouais.
Et en fait, j'ai eu des parents qui m'ont laissé toucher à tout, faire plein de choses. Et c'est pas pour autant que j'ai été le genre d'enfant à tenter un sport tous les 6 mois, échanger, arrêter. En fait, on m'a laissé beaucoup, beaucoup de liberté. J'étais un enfant très autonome aussi. Je suis assez étonnée parfois de certains enfants qui savent pas jouer tout seul dans leur chambre, etc. Nous, avec mon frère, on partait et tout. On ne voyait pas pendant des heures, tu vois. Et en fait, je crois que je suis comme ça aujourd'hui. Je suis très curieuse et il n'y a que comme ça que ça me motive de me réveiller. Et aussi, de toute façon, tu vois, toi, tu disais, tu as besoin d'une to-do bien faite sur la semaine. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a tout le même métier, mais pas du tout la même façon de le faire. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et c'est vraiment ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment...
y a pas de profil type, quoi. Non. C'est ça qui est bien aussi. Il y a
tout
tellement de façons de le faire.
Ouais.
Et qui peut correspondre à chacun et chacune, quoi.
Vraiment. Et c'est pour ça que des fois on me dit, mais t'as fait quelle étude, non mais attends, mais on s'en fiche complètement.
Ah ouais.
Vraiment, on
tu
s'en fiche.
C'est ça qui est beau avec ce métier.
Mais même avec la vie en général, parce que des fois je détends un peu les gens. Alors soit tu sais exactement, tu veux faire les beaux-arts, mais lesquels? Tu fais ton école. C'est en fonction de ce que tu vas faire dans ton école qu'il va se passer des choses. Mais il y a aussi, fais les études qui te passionnent sur le moment. Moi, j'ai une maman qui a trouvé sa voie à 50 ans, mais clairement, on est une génération qui aura plusieurs métiers, plusieurs vies, peut-être plusieurs mariages.
Ouais, je suis totalement d'accord avec
quand
toi.
Quand tu disais que rien n'est figé, c'est vrai, donc il faut... Sur le coup, c'est les beaux-arts que j'ai voulu faire, mais ça aurait pu être autre chose, tu vois, il y avait...
Et ça aurait quand même pu te mener là où t'es aujourd'hui,
complètement.
Parce que parfois, on a peur... en choisissant quelque chose, que ça ne nous amène pas là où on a envie d'être.
Et mais ça se trouve, c'est autre chose qui va t'y amener, quoi.
Il faut juste pousser plusieurs portes, quoi.
Ouais.
Et on trouvera la bonne.
Vraiment.
Il y a une question que j'ai envie de te poser, du coup, aussi, suite à tout ce que tu nous as raconté, c'est... Du coup, on comprend que ça a été quand même assez fluide, que tu t'es toujours écouté et que tu as toujours fait ce qui te plaisait. Est-ce que tu as déjà rencontré ce qu'on appellerait l'échec, mais au final, juste un obstacle, une difficulté, un truc où tu t'es dit... ça s'est vraiment pas passé comme je voulais et que tu pourrais nous partager?
Eh bien, je vais te dire un truc, y a rien qui me vient et je me connais, je sais pourquoi. C'est parce que soit je suis passée à autre chose hyper vite, je suis quelqu'un, on peut pas faire moins rancunière que moi, moins...
T'es pas dans le ressentiment, dans le ressassement?
Non. Et du coup, en fait, comme... Alors, je vais pas te faire un speech, j'ai utilisé cet échec pour rebondir, machin. Non, en fait, je me suis posé 2 secondes. Très vite, je trouve une autre solution. Et en fait, je ne me souviens plus que ce que j'ai fait à la place.
D'accord.
Donc, en fait, non, ça reste pas. Et c'est pour ça que toutes ces questions de « mais t'aurais fait quoi ? Mais tu te vois où dans 5 ans ?» Mais en fait, mais j'en sais rien.
Ah ouais.
Je sais pas. Et du coup, l'échec, évidemment, qu'on en a, on croit qu'on te dit non, on te machin, on te truc, mais en fait, à la place, tu vas faire autre chose. Et en plus, je crois très sincèrement que tout arrive pour une raison. Et du coup, tu me dis non. Mais un jour, je comprendrai pourquoi. Ah, j'ai pas pu aller dans cette... Je comprendrai pourquoi. Et en fait, je ne me concentre que sur là où je suis, qui sont le résultat de mes idées, d'inspiration, de gens que j'ai rencontrés, d'échecs, de oui, de non, de tout. Mais le seul truc qui importe, c'est l'endroit où je suis. Donc, je peux te raconter la route. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qui m'a fait prendre quel chemin. Mais je profite de là où j'en suis, tu vois.
Ouais. Mais en fait, je pense que c'est quand on est bien dans sa peau, c'est là où on arrive à tout dépasser, entre guillemets.
Ouais.
Quoi. C'est t'as pas eu de blocage, parce que c'est comme dans une relation, hein, c'est si jamais les deux sont très bien avec eux-mêmes, ça se passe bien.
Ouais.
Mais si un des deux a un problème avec soi-même, souvent, ça fait capoter la relation, quoi.
Tout à fait.
Donc, ok, bah écoute, c'est top. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à être aussi épanouie? Est-ce que des livres, des films, des podcasts, des ressources, quoi, que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui aspirent à avoir, enfin, être vraiment épanouie?
Alors, je suis convaincue que ça n'est que le résultat de tout ça, c'est évident, parce que... Bah déjà, voilà, toutes les bonnes vibes de mes parents, et ils ont aussi des failles, hein. Il y a aussi des casseroles que je me... Faut pas rêver, hein. C'est pas tout rose, hein. Mais encore une fois, je veux surtout me construire sur les belles choses qu'ils ont mis à l'intérieur de moi. Et évidemment, cette ouverture d'esprit qui est celle de ma maman et même de sa maman, c'est fou, tu vois, très vite. En fait, c'est encore une fois le côté où tout est possible et tout arrive pour une raison et tu as mal quelque part parce qu'il se passe quelque chose. En fait, je suis à l'écoute de tout. Mmh. Et du coup, tout peut m'inspirer. Mais c'est-à-dire que, là, vous le voyez pas, mais il y a une couleur quand même très particulière dans cet appartement qui est en fait une couleur violette sur les murs que j'avais jamais vue avant. Et là, ça me met dans un mood qui inspire. En fait, tout est inspiration. Vraiment. Donc là, tout de suite, je pourrais te dire des livres comme... c'est un sujet très très particulier qui peut pas parler à tout le monde, mais le livre Trop intelligent pour être heureux, qui est incroyable. Il y a le livre La semaine de 4 heures qui t'apprend, qui te déconstruit le fait qu'il faut pas travailler de 7h à 21h30 pour être productif et riche et arriver à ses fins, etc. C'est bête, mais moi je trouve que le livre ta vie commence quand tu comprends que tu...
Attends, c'est quoi ta seconde vie démarre quand tu réalises que tu n'en as qu'une?
Quelque chose comme
ça. Comme ça, je le mettrai
dans les notes. C'est un roman, c'est clairement un roman, c'est pas exactement un livre de développement personnel, mais je sais qu'il y a des gens qui... C'est un peu compliqué de commencer la façon d'écrire le développement personnel, et donc c'est une super façon de commencer, et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et sincèrement, je dirais que c'est les gens que je suis sur Instagram, mais c'est aussi les gens que je ne suis pas. J'essaye aussi de trier avec des bonnes vibes, et c'est la musique, et c'est les séries, et oui, il y a des moments, je regarde clairement des séries dignes de Disney Channel faites pour des filles de 12 ans, mais en fait, c'est simple, ça me fait du bien, c'est coloré, et c'est le truc du moment. En ce moment, j'ai besoin de marcher. J'ai besoin de marcher, je suis venue ici, ça a pris je sais pas combien de temps. J'ai besoin de marcher. Donc l'inspiration, elle est partout, et elle est... Il y a des moments, c'est le cinéma. Le cinéma, parce que je peux toucher à rien d'autre. Je sais qu'il y a des moments, par le sport, j'en fais des différences souvent, parce que des fois, j'ai besoin, tu vois, cardio de se défoncer, renforcement musculaire pour avoir des efforts. Des fois, c'est que du vélo, parce que j'ai juste besoin de que mes mains ne touchent pas un téléphone et que je fasse autre chose. J'aimerais avoir une super liste, mais si je me posais deux secondes, je pourrais réfléchir à deux, trois films qui me... Mais tu vois, par exemple, la biographie de Steve Jobs, je l'adore parce que c'est un mec où tout était possible dans sa tête.
Ouais.
C'était un fou, mais tout était possible. Et moi, je l'ai pris de ce biais-là, tu vois. C'est cette belle réussite. Donc j'adore les biographies pour ça. C'est des films comme ça, où c'est des petites choses, des...
Donc c'est un film, la biographie de Steve Jobs?
Non, ça s'appelle Steve, je crois.
Ouais,
et,
je vois.
Elle est, les deux films sont pas mal, hein, mais le livre,
ouais, comme souvent,
c'est et aussi, très 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 belle. Parce que les films, par choix, le premier film s'arrête en 2001, je crois, à la création de l'iPhone ou l'iPod, je sais plus. Et le deuxième, c'est des flashbacks sur trois parties de sa vie, donc c'est finalement, ça va pas très très loin. Et ça le dépeint surtout comme un père absent et... C'est pas top. Mais le livre est vraiment bien. Mais je sais que c'est des livres qui m'ont parlé à ce moment-là. Donc peut-être que je lirai ça aujourd'hui, ça me parlait plus. Donc c'est super difficile. J'aimerais vraiment avoir une liste magique et il faudrait que j'y réfléchisse. Hein. Peut-être que je pourrais le faire. Mais il y a des choses qui me font du bien à manger, à boire, à des moments. Tu vois, c'est vraiment un mix. À porter, tu vois, c'est bête. Mais il y a des moments où j'ai besoin d'être en robe et en talons. Tu vois, c'est une semaine où j'ai envie d'être comme ça. Bah, aujourd'hui, je suis en pull et en vraiment pantalon très large et je me sens très confidente quand même, tu vois. Donc, c'est vraiment s'écouter. Et ça, Je sais que c'est un travail pas évident, mais quand on commence à être très très connecté avec soi, c'est cool, parce qu'on se donne ce dont on a envie, quoi.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et quand on n'y est pas encore, sur des personnes qui le tout sont à fait. Et qui partagent ce message énormément.
Et ça se fait étape par étape, du coup.
Clairement.
Ah, c'est vrai, ça me parle, elle a lu ça, ça a l'air de m'intéresser. Et tu t'ouvres des... Donc c'est pour ça que c'est des petites choses petit à petit. Et parfois, c'est des livres, je vais dire livre, mais ça peut être autre chose. Tu t'y attends pas du tout, c'est censé être un petit roman, un petit machin. Punaise, mais la fin, en fait, elle te renvoie à quelque chose sur toi et ça te fait travailler. Et en fait, tu es en constant travail sur toi.
Bah, c'est marrant que tu parles de ça. Est-ce que toi, tu as parfois l'impression que ton cerveau n'arrête pas?
Ah bah bien sûr.
Que t'es en machin... Et parfois, c'est pas un peu... Ouais, ça fait du bruit.
Alors,
t'arrives à méditer, toi, je crois qu'on était...
J'arrive pas à méditer, mais je sais plus si c'est à toi que je disais ça. En fait, méditer, pour moi, c'est faire quelque chose en pleine conscience. C'est très dur de faire rien en pleine conscience. Et en fait, moi, mon rien, je le trouve ailleurs, devant un film, au cinéma, vraiment, je pense qu'au film, au sport, je
au
pense
sport,
assez... rarement à autre chose, ça peut arriver au tout début et très vite tu te laisses embarquer. Donc ma méditation, mon lâcher prise, je le trouve ailleurs. Et ma pleine conscience, je la trouve ailleurs aussi. Je fais la vaisselle, c'est de la pleine conscience. Je fais rien d'autre, mes mains sont occupées, je fais attention à la chaleur, aux petites bulles. Maman, je sais que tu écoutes à ce moment-là, que tu es fière de moi, c'est toi qui m'as appris tout ça. C'est vraiment des moments, t'es sous la douche. Fais attention à ce que tu sens, comment tu te laves, ça prend 2 secondes, mais c'est, tu vois, c'est faire les choses en conscience. Vraiment prendre le temps de sentir, cuisiner, c'est un moment pour moi qui est vraiment, vraiment important. C'est, ça me détend, je sens les choses, je fais un truc de A à Z, tu vois. Donc non, j'arrive, mais je me suis détachée de, ok, je sais pas méditer, mais c'est pas grave. Et ok, j'ai plein de trucs dans la tête. Ça doit vraiment pas être facile d'être à mon côté tous les jours, mais j'ai aussi des astuces pour... lâcher prise, genre vraiment mes notes, c'est précieux. J'ai un truc dans la tête, je le mets dans mes notes. J'ai pas de truc genre faut que je pense à ça, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Jamais. Je suis quelqu'un de finalement, pour tout ce que j'ai dans la tête, plutôt détendu parce que tout est écrit, j'oublierai pas, ça se fera à un moment. Et surtout, si ça doit pas être maintenant, c'est plus tard. Et oui, ça fait du bruit, mais je crois que j'ai forcément une petite peur de ce côté page blanche où je suis très rassurée dans mes millions d'idées. Je suis heureuse dans mes millions d'idées.
Ouais, c'est clair. Bon, mais on est aligné là-dessus. Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, quoi, si ce n'est de s'écouter, et de faire à son rythme. Ça reste quand même le plus précieux. Et pour terminer, je voulais juste parler un peu, de Healthy Hour donc, que t'as lancé l'année dernière. Quelle a été la volonté derrière et quelles ont été... Qu'est-ce que t'as mis en place? Parce que... c'est quand même hyper différent de ce que tu fais aujourd'hui. On parle de produits, on parle de conservation, on parle de logistique, de livraison. Donc, si tu peux nous dire un cette aventure, comment ça s'est passé.
Du coup, j'avais pas... Alors, évidemment, parce qu'il y a des gens qui m'avaient déjà contacté, parce qu'on voit d'autres copines le faire, parce qu'on sent qu'on n'a jamais été aussi près que ce soit possible, j'avais réfléchi à avoir une marque, de fringues, de beauté, de machin, mais... Sans y aller, tu vois, je m'amusais déjà bien, pas cette grosse envie. Et puis, quand il y a eu quand même plusieurs parties dans mon métier, mais c'est vrai qu'il y a eu un avant-après le rééquilibrage alimentaire, la seconde partie étant là depuis 3 ans avec ce nouveau compte Instagram, des livres. Et en fait, très vite, j'ai voulu aider les gens à les embarquer dans l'aventure. Donc du coup, le compte Instagram avec plein de conseils, le livre aussi... Et très vite, je me suis dit, avec cette marque, je pourrais proposer... Parce que je vois bien, les gens sont gourmands, ont peur de pas avoir le goûter. C'est précieux, tu vois, et c'est un moment que j'aime bien. Et je me suis dit, écoute, une marque avec ce côté, on se fait plaisir, mais c'est sain. Ça m'a branchée et j'ai trouvé un associé qui, lui, du coup... Donc là, je vais pas avoir beaucoup de réponses sur le côté logistique. Alors évidemment, je connais tout ce qu'il fait, je suis à fond, mais il s'en occupe. Donc ça c'est super parce que moi j'ai vraiment la partie marketing, création, donc c'est la partie que je préfère. J'y vais en logistique, je suis avec lui, tout ce qui est stock, tout ce qui est date, comme tu disais, bien sûr, nouveaux produits, mais encore une fois, c'est presque le même métier que je fais à côté dans le sens où je suis là directrice créative et marketing, donc plus là de mon blog mais d'une marque. Et j'apprends tous les jours, c'est fascinant. Et pour le coup, parce que j'ai une autre idée en tête, si je devais recréer quelque chose, je pense que j'irais encore plus à fond dedans, tu vois.
Ok, et ça se passe bien du coup avec ton associé, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où, comme avec ce qu'on fait, on est 100% indépendante, 100% libre de nos paroles, de nos gestes et tout, ça peut ne pas être évident d'avoir tout d'un coup des comptes à rendre, des rendez-vous
tout à fait.
À se faire avec quelqu'un d'autre.
Ce qui est génial, c'est qu'il sait très bien faire sa partie et je sais très bien faire ma partie, donc compte à rendre, j'ai pas trop à subir ça.
Ouais.
Donc ça, c'est cool, parce qu'on est encore une petite start-up, hein, j'ai pas des gens vraiment à qui rendre des comptes. Par contre, et ça, c'était assez nouveau, là va y avoir du retard, là il y a des colis qui ont été perdus, et moi dans mon métier faisant tout de A à Z, je suis pas très habituée à ce que un truc soit pas possible, un truc soit perdu, un truc soit repoussé, un truc finalement sera autrement, et ça c'est du boulot sur soi-même, tu vois, vraiment, parce que quand ça fait 10 ans que tu gères tout et que tu fais en sorte que tout glisse, et là, vraiment, il y a des moments, tu crois pendant des mois que ça va être possible, et je pense que tu vois tout à fait de quoi je parle. Du coup, ça, c'est vraiment pas facile, et c'est des déceptions parfois, tu apprends, mais c'est bien vraiment, moi, ça me fait grandir tous les jours, ce métier. C'est aussi, tout peut pas fonctionner toujours comme des roulettes, c'est la vie, c'est la vie.
C'est dur à accepter.
C'est dur à accepter, t'y as cru, des fois tu dois abandonner des grosses choses, mais finalement dans mon métier, encore une fois, comme j'ai déjà fait des collabs, des créations, des collections avec des marques, j'ai connu les histoires de stock, de sold out, de colis qui arrivent pas à temps, de colis perdus, de problèmes de taille, de problèmes de produits qui finalement passent pas bien en machine, j'avais connu pas mal de choses, donc là, j'essaye de travailler sur moi pour pas être toujours à chaque fois déçue. Je suis quelqu'un de très très entier et passionné, donc c'est pas facile, mais c'est aussi pour ça que je m'éclate. Mais faut apprendre à pas trop prendre à cœur. Et une partie où je m'y attendais pas, c'est la partie, bon courage, c'est la partie SAV.
Ah ouais.
Ça, c'est dur.
Ouais, j'imagine.
Ah, c'est très dur.
Bon, après, moi, je compte vraiment... Je trouve que c'est dur, mais d'un côté, c'est tellement précieux et c'est tellement l'essence et le cœur de ta marque que moi, le SAV, je compte le faire seul le plus longtemps possible. Parce
qu'en
fait, tu as tous les commentaires de ta communauté.
Comme pour le blog, elles ont aimé, elles n'ont pas aimé.
Pour t'améliorer.
Et puis surtout, encore plus que le blog, j'ai reçu ma box, tout était délicieux et tout, tu dis « ok ».
Ouais.
Cool, tu vois, il faut, t'en as besoin.
Moteur, c'est
un moteur de dingue. Mm. Mais quand ça se passe pas bien, tu le prends tellement pour toi et pourtant, mais c'est pas toi le facteur ou c'est pas toi le, tu vois. Mais ça aussi pas facile. Mais comme pour le blog, hein, quand tu crées quelque chose, et je pense toujours aux créateurs, quand tu crées quelque chose de A à Z, c'est vraiment pas facile. Et il y a des gens qui sont vraiment vraiment en colère, qui sont vraiment déçus, et c'est dur. C'est dur.
On apprend. Écoute, j'ai deux petites dernières questions pour toi. tu as le droit de tousser. C'est d'abord, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast si tu avais la possibilité de choisir qui viendrait dans deux semaines. Qui est-ce que tu aimerais entendre l'histoire? Ça peut être vraiment n'importe qui.
Mais une femme.
Ah non, ça peut être n'importe qui. Je reçois des hommes aussi.
Ok, Hugo Clément.
D'accord.
Ouais, grosse passion sur ce mec en ce moment.
Ouais. Tu connais ou pas?
Non, du tout.
Ah ouais, donc
on a échangé 2-3 messages sur Instagram parce que je suis passionnée par son livre et par certains sujets, beaucoup de sujets qu'il partage. Donc je trouve que c'est quelqu'un de fascinant et voilà. Je dirais Brune Poirson.
Ouais. Ah, j'y ai pensé en plus après la vidéo de Marie Angel Phoenix.
Ça pourrait être très intéressant, Brune, bien sûr. Léa, tu l'as déjà...
J'ai reçu, ouais. Super épisode, je l'ai plus écouté à date.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, c'est chouette. En plus, comme elle a aussi un podcast, je pense qu'elle a une
communauté de...
Une communauté de... Comment on dit? Ouais, des auditrices.
Ouais, exactement.
Auditeurs, auditrices, super. À qui je pense comme ça?
C'est déjà pas mal, hein?
Ouais, c'est déjà
pas mal. En vérité, tu peux dire une personne, t'en as dit trois. Donc, trop cool. Et je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour que ce soit très accessible facilement. Et bon, on se dit à très vite.
À très vite.
Bisous. Merci beaucoup de vous être joints à notre conversation avec Margot. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant un post, une story ou un article sur le sujet en nous taguant. On les voit tous passer et ça nous fait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une ou deux amies autour de vous qu'il pourrait inspirer. Et moi, je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, alors rien ne pourrait me faire plus plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Imagine. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.